Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier.
Alors vous revenez sur le gros problème de l'heure, donc l'Iran, sans les États-Unis, l'accord est-il toujours tenable? Question.
Bonne question, on va suivre ça.
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
On va suivre ces échanges de tirs directs entre forces iraniennes et israéliennes sur le Golan et cette occasion très limitée de préserver l'accord sur le nucléaire. C'est ce qu'a dit le président Hassan Rouhani aux Européens hier après le retrait des États-Unis. Alors radicalité de Donald Trump, déception de l'Union Européenne, Russie et Chine, les pays du Golfe et Israël satisfaits. Bonjour Thierry Coville.
Oui, bonjour.
Et merci d'être au téléphone avec nous, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, auteur notamment d'Iran, la révolution invisible. Alors en quelque sorte, c'est un scénario désormais connu, hein. Après le retrait du traité transpacifique et de l'accord sur le climat, Donald Trump remplit une nouvelle promesse de campagne. On s'inquiète des conséquences économiques. C'est vrai qu'il y a des autorisations de vente de Boeing et d'Airbus qui sont déjà visées, a annoncé le secrétaire d'État au Trésor américain. Face à cela, la Chine et la Russie signent et surtout l'Union européenne sont maintenant tenues de trouver du lien, disons, à mettre dans l'accord, c'est-à-dire favoriser les échanges économiques pour arrimer l'Iran à cet accord. Faute de quoi, peut-être la vision des conservateurs pourrait-elle triompher. Le temps est compté et comme d'habitude, le ton du président français est emphatique. L'Europe est en charge de garantir cet ordre multilatéral. Encore une fois, Thierry Coville, la méthode américaine apparaît contre-productive. Pourquoi la moins légitime des justifications, mais la tactique est éprouvée, c'est celle du délai. Washington a donné 6 mois aux entreprises pour se conformer aux sanctions. Donald Trump, c'est vrai, a habitué le monde à des décisions radicales. Peut-être que là, il tape fort, car il ne vise pas la première balle. Il joue en quelque sorte par la bande. Peut-être que le nucléaire, Thierry Coville, n'est pas l'essentiel. Mais alors, tout est-il plus simple ou plus compliqué? Que peut-on négocier encore? D'abord, une question qu'il faut éclaircir vraiment. Est-ce qu'il y avait le moindre doute que l'Iran avait violé l'accord dont les conditions étaient de maintenir l'enrichissement de l'uranium en dessous de 3,5% et des stocks d'uranium inférieurs à 300 kilos par an?
Non, tous les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il y en a eu 10. Il y a eu des visites. Non, l'Iran a respecté scrupuleusement l'accord.
Bon, ça c'est la première chose. Alors, cependant, c'est quand même un échec pour la politique iranienne, notamment de Javad Zarif et de Rouhani. Est-ce qu'ils n'ont pas été pris en défaut? Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, qui affirmait en juin 2017 qu'il ferait plier l'administration Trump sur cette question. On voit que ce n'est pas le cas, là.
Oui, enfin, si vous voulez, ce qui est vrai, c'est que le camp des modérés en Iran s'est engagé dans des négociations pour régler la crise nucléaire, a abouti à cet accord. Bon, l'argumentaire, effectivement, des durs en Iran, depuis le début, a dit, mais ne faites pas confiance aux États-Unis, de toute façon, c'est pas l'accord qu'ils veulent, ils veulent un changement de régime, donc vous avez tort, quelque part, de vous allier avec eux, de négocier avec eux, on peut pas leur faire confiance. Donc, effectivement, la décision de Donald Trump, vous venez de le rappeler, renforce tout à fait le discours des durs en Iran.
Ouais. Et à quel point est-ce qu'il le renforce aujourd'hui? Tout le monde a commenté là cette scène au Parlement iranien où il y a un drapeau américain qui a été brûlé. Il y a des députés qui ont dit mort à l'Amérique. Et je crois que vous avez souligné vous-même qu'il y a des journaux qui veulent maintenant que l'Iran revienne à l'enrichissement à 20%. C'est sérieux ça?
Ah oui. Le mouvement des durs en Iran, ça c'est pas la majorité de la population, mais faut rappeler quand même qu'il y a eu l'adversaire de Rouhani aux dernières élections présidentielles, il a fait 40%. Donc ils ont un discours très populiste, très très nationaliste, du genre nous on n'est pas contre les durs, ils disent on n'est pas contre pour négocier avec les États-Unis, mais on a compris leur méthode. Il faut imposer un rapport de force. Donc l'idée de négocier avec eux comme ça, en faisant confiance à leur bonne foi, ça marche pas. Donc effectivement, le journal Kehan, je crois que c'était il y a quelques semaines, a dit bon, si Trump, le jour où Trump déchire l'accord, ils ont titré, je crois, enrichissement à 20%. Donc, pour eux, c'est très clair.
Ouais. Et cependant, ce qu'il faut noter, c'est une attitude plutôt mesurée, une réaction modérée de la part des instances les plus importantes, aussi bien le guide suprême Khamenei qui dit « Monsieur Trump, je vous le dis, vous avez commis une erreur, hein, ça aurait pu être plus sévère, disons, comme remarque », et Hassan Rouhani, surtout, qui dit que dans les semaines à venir, je le cite, « le ministère des Affaires étrangères va négocier avec Européens, Chine et Russie pour continuer à pleinement bénéficier de l'accord ». Qu'est-ce que peut espérer Rouhani?
Ben, si vous voulez, il faut bien d'ailleurs comprendre, si vous voulez, c'est que la position finale de l'Iran, c'est toujours une synthèse entre les différentes positions. Donc on va dire que le guide est Rouhani, pour l'instant, stratégiquement considère que sans doute les États-Unis ont fait une erreur en sortant de l'accord. Eux, ils jouent la carte du droit international. Donc je pense que leur stratégie maintenant, même je pense que le Khamenei est plus favorable au dur, mais disons l'intérêt national de l'Iran signifie qu'ils vont d'abord essayer de sauver l'accord. Et effectivement, ce qu'ils vont attendre des Européens notamment, c'est des garanties économiques comme quoi il n'y aura pas de répercussions aux nouvelles sanctions américaines.
Et de ce point de vue-là, alors on ne va pas commenter si c'est un échec aussi ou pas pour les démarches de l'Union européenne qu'il y a eu la semaine dernière, mais qu'est-ce que peut justement faire l'UE, je le disais, pour arrimer l'Iran? Qu'est-ce qu'elle peut proposer, c'est-à-dire en contournant les sanctions, en ne les contournant pas, en payant un prix fort? Ça a l'air assez compliqué. Là, il y a des groupes de travail qui doivent se mettre en place.
Oui, oui, bah, si vous voulez, le point, il est clair, hein, l'objectif, il est clair. Il faut déjà, si vous voulez, l'Iran estime qu'ils n'ont pas les bénéfices économiques de l'accord. Il n'y a aucune grande banque européenne qui est venue en Iran. Donc l'idée, c'est que effectivement, les sanctions américaines n'aient pas d'impact négatif sur l'économie iranienne. Alors comment on va faire? Bon, on a des petites idées. On sait qu'on pourrait mettre en place des systèmes de financement public en Europe, comme la BPI en France. On peut également penser à contrecarrer juridiquement, hein. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'aller à l'OMC, mais disons, vous savez, il faut rappeler quand même que les sanctions américaines sont illégales du point de vue du droit international, parce qu'elles sont extraterritoriales. Mmh. Et l'idée aussi, c'est que les États, je pense que les entreprises européennes, ce qu'elles attendent, c'est les entreprises françaises, c'est que l'État, au moins, là, c'est ce qui semble se passer, c'est que l'État, au moins, leur dit « je suis derrière vous ».
Ouais, et il y avait la possibilité aussi d'un engagement, disons, européen en bloc, en permettant à l'Iran de passer, par exemple, par la Banque européenne d'investissement pour effectuer des transactions en euros. Cette Banque européenne d'investissement qui est intouchable, justement, aux USA. Ça, c'est une possibilité aussi un peu, disons, massive pour les Européens.
Oui, ce que je vous disais, l'idée, c'est que puisque les banques privées refusent de prendre le risque d'aller en Iran, c'est d'utiliser les banques publiques. Alors, on a des banques publiques dans chaque État. Effectivement, on y pense depuis quelques mois, c'est également utiliser la Banque européenne d'investissement. Je voulais simplement préciser, parce que j'entends pas mal de bêtises sur ce sujet, depuis l'affaire BNP Paribas, donc les entreprises européennes et ont bien compris qu'il fallait travailler en euros avec l'Iran. Donc, c'est déjà le cas, si vous voulez. Personne n'est assez stupide maintenant pour travailler en dollars avec l'Iran.
Oui, BNP Paribas qui avait dû à l'époque payer 9 milliards de dollars aux États-Unis. Et puis, deuxième chose, là, concernant les possibilités de négociations ultérieures, Emmanuel Macron a toujours insisté pour, ou en tout cas ces derniers mois, pour qu'il y ait des ajouts à l'accord. Ce sont des demandes américaines aussi sur l'après 2025, mais aussi sur le balistique et le rôle régional. Qu'est-ce qu'il est possible de négocier compte tenu qu'un accord existe déjà? Est-ce que ce serait des ajouts? Est-ce que c'est vraiment envisageable des négociations dans ce contexte sur, par exemple, le programme balistique iranien?
Oui, mais si vous voulez, là, je pense qu'on en fait beaucoup suite à la déclaration de Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse avec Donald Trump. Moi, il me semble que la position de la France n'a pas changé. Elle est claire. On touche pas à l'accord de 2015. Donc, tous ceux qui disent que la France veut faire un accord plus large, ils jouent sur l'ambiguïté. La France, et d'ailleurs, c'est la position européenne, on ne touche pas à l'accord de 2015 qui marche. Donc c'est bien ça ce dont on parle. Par contre, si on arrive à sauver l'accord, parce que déjà, le premier point, c'est de sauver l'accord de 2015. Donc si on arrive à sauver l'accord et à montrer qu'il marche et que l'Iran continue à respecter ses obligations qui est d'avoir un programme nucléaire civil, mais ça va prendre un petit peu de temps, là, effectivement, on pourra ouvrir d'autres champs de négociation. L'idée, si on montre à l'Iran qu'ils ont intérêt à négocier avec l'Occident, on peut ouvrir d'autres champs de négociation sur les missiles, leur rôle dans la région, et on voit que c'est important, et également l'après-accord, c'est-à-dire à partir de 2025. Mais je pense que la France ne veut absolument pas toucher à l'accord de 2015.
Bon, et alors justement, qu'est-ce qui, ça, les prochains mois vont l'éclaircir, mais qu'est-ce qui est vraiment en jeu pour l'administration américaine, selon vous? Je le disais, là, c'est une manière de donner un avantage quand même important à l'Iran du point de vue du droit international. D'un côté, c'est une décision contre-productive à plein de points de vue, et puis de l'autre, c'est quand même la suite logique, on peut le remarquer, du discours de Riyad de Donald Trump, de cette coalition antiterroriste qui excluait l'Iran menée par l'Arabie Saoudite. C'est toujours des mesures d'ostracisme, en fait, pour obtenir quelque chose d'autre?
Oui, si vous voulez, bon, si on essaie de comprendre la stratégie de Donald Trump, c'est qu'en fait, en gros, c'est une stratégie de négociation. Il renverse la table avec l'idée qu'à un moment, les Iraniens viendront le voir et qu'on discutera de tout. Bon, le jour où ça arrivera, il faudra me prévenir, parce que vous savez, l'Iran, c'est pas la Corée du Nord, on vient d'en parler, c'est un pouvoir complexe, il y a des durs, etc. Donc, qui prendrait, un responsable iranien, actuellement, qui prendrait le risque d'aller négocier avec Trump, il a plus de carrière politique en Iran. Donc, si vous voulez, cette idée, à mon avis, est très, très dangereuse, et c'est l'énorme faiblesse de la position américaine. Hein, c'est facile de détruire cet accord, mais qu'est-ce qu'il propose à la place? Rien à part une stratégie de la tension.
Ouais, c'est ça, une instrumentalisation de l'accord comme levier sur d'autres sujets. À suivre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci en tout cas pour vos explications aujourd'hui, Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Je renvoie à votre ouvrage « Iran, la révolution invisible ». Et puis, je dis à nos éditeurs, à demain, on reviendra sur ce sommet tripartite Chine, Corée du Sud et Japon.